Chapitre 3. Milet, ou naquit Aspasie, d'un père nommé Axiochos, était une des villes les plus florissantes du littoral ionien. Son passé militaire faisait sa renommée. Son industrie et son commerce faisaient sa richesse. Sa richesse faisait sa corruption. Patrie de Thalès, d'Anaximandre et d'Anaximène, cette ville n'était pas moins fameuse par le nombre de ses courtisanes que par celui de ses philosophes. C'était à la fois la Corinthe et l'Athènes de l'Ionie. C'était la meilleure des écoles pour Aspasie, l'Étaïre philosophe. À Milet, Aspasie mena la vie d'une courtisane, mais d'une courtisane de conduite raisonnée et d'accès difficile. Prenant exemple sur la célèbre Thargélia, qui eut 14 amants, tous gouverneurs de ville, et qui mourut mariée à un tyran de Thessalie, elle ne se donnait qu'au premier d'entre les citoyens. Pour quel motif et dans quelles circonstances Aspasie vint-elle à Athènes? En quelle année et à quel âge y arriva-t-elle? Autant de questions sur quoi manquent les documents et que la critique ne saurait songer à résoudre. On peut affirmer seulement que la Milésienne était fixée à Athènes antérieurement à l'Olympiade 85, 440-437 avant Jésus-Christ, époque où déjà avait commencé sa liaison avec Périclès. À entendre Plutarque, qui avait lu les Socratiques et qui, peut-être, prenait leurs assertions trop au sérieux, Périclès fut séduit par le savoir et l'esprit d'Aspasie. Sans pour cela mettre en doute les mérites intellectuels de cette femme illustre, il est permis de penser que Périclès ne fut pas moins captivé par sa beauté et par sa grâce. L'Athénien prit d'abord Aspasie comme maîtresse. Puis, lui et sa femme ayant divorcé par consentement mutuel, il ouvrit sa maison à la Milésienne et vécut ouvertement avec elle. Faut-il croire, avec les modernes apologistes d'Aspasie, que Périclès épousa l'Étaïre de Milet? Le fait est au moins improbable. À Athènes, un citoyen était parfaitement libre de vivre avec une courtisane, quelle qu'elle fût. Mais la loi lui interdisait d'une façon formelle d'épouser une étrangère. Il ne pouvait le faire qu'en vertu d'un faux témoignage, car, avant la cérémonie religieuse, il y avait à remplir une formalité légale. Si, plus tard, il était reconnu que la déposition enregistrée par le greffier public était fausse, les deux époux, considérés comme complices, risquaient d'être traduits devant le dicastérion. La loi édictait des peines graves. La femme était vendue comme esclave, le mari avait à payer une grosse amende et perdait ses droits civiques. Les enfants, déclarés bâtards, étaient déchus du nom d'Athénien. Quelques hommes obscurs réussissaient sans doute, à l'aide de faux témoins, à tromper les greffiers de l'état civil sur la nationalité de leurs fiancés, et s'ils ne se mêlaient point aux luttes politiques, ils n'avaient pas trop à craindre des enquêtes subséquentes. Mais il n'en pouvait être ainsi pour des personnages aussi connus que Périclès et Aspasie. Périclès eut-il même eu la certitude de faire enregistrer une déposition mensongère qu'il ne l'eût point voulu. Comme chef de parti, il était sans cesse exposé aux attaques et aux machinations de ses ennemis politiques. Dans cette cité, où le ministère public n'existant pas, tout citoyen pouvait intenter à tout citoyen une action au criminel, quelle arme ce mariage illicite eût fourni à ses adversaires? Si l'honneur du mariage était dénié à Aspasie, elle avait par compensation une liberté inconnue aux Athéniennes. Sans doute, à Athènes, la femme ne vivait point dans un humiliant esclavage, comme quelques personnes se l'imaginent encore. Dans la maison, elle était maîtresse souveraine. En se mêlant des détails du ménage, le mari se fut donné un ridicule. Xénophon, dans son traité de l'économique, dit que c'est au mari de gagner de l'argent et à la femme de le dépenser. Il compare ensuite la femme à la reine des abeilles. Elle reste dans la ruche et envoie les abeilles travailler au dehors. Elle reçoit ce que chacune d'elles apporte et conserve les provisions jusqu'au moment de s'en servir. Elle préside à la construction des cellules, elle prend soin de la nourriture des nouveaux essaims. La femme est l'économe de la maison. C'est elle qui distribue la tâche aux servantes, qui donne des ordres aux esclaves, qui se charge de la cuisine, du cellier, de la boulangerie, qui fait acheter, ranger et distribuer les provisions. C'est elle qui a la clé de la chambre où sont tous les objets précieux, vases et coupes de métal, bijoux, riches vêtements pour les jours de fête, argent monnayé. L'usage lui défend de nourrir elle-même ses enfants, mais elle les berce, les amuse et les embrasse sans cesse. Ensuite, elle veille à la première éducation des garçons, à l'éducation entière des filles. Pour s'occuper encore, l'Athénienne a sa toilette qui est fort longue et fort compliquée, car elle se baigne plusieurs fois par jour, se parfume, soigne les cheveux d'essence, se les poudre avec de la poudre d'or, se farde les joues et les lèvres, se teint les paupières et les sourcils. Le temps que lui laisse sa maison, sa toilette, ses enfants, ses oiseaux et ses chiens, la femme l'emploie en promenade, en course ou en visites à des amis. Les jours de fêtes religieuses, si fréquents en Attique, sont pour les Athéniennes des occasions de plaisir sans nombre et d'une infinie variété. Tantôt, elles entendent au théâtre de Bacchus une tragédie d'Eschyle ou de Sophocle. Tantôt, elles figurent, magnifiquement parées, dans le splendide cortège qui monte au Parthénon par les degrés des propylées. Au Dionysie, elles parcourent, montées sur des ânes et déguisées, les bois et les plaines des environs d'Athènes. Au Sthénie, elles se livrent par les ruses et les places, des assauts de plaisanteries et d'invectives comiques. Au Thermosphorie, elles célèbrent, deux jours durant, les rites mystérieux du temple de Déméter, d'où les hommes sont exclus. Aux Adonis, aux Targélies, aux Éleusinies, ce sont d'autres cérémonies et d'autres spectacles. Processions, concours de chanteurs, jeux publics, courses aux flambeaux, apparitions fantasmagoriques. Les femmes n'étaient donc ni des esclaves ni des recluses. Seulement, elles vivaient en dehors de la société des hommes. Sauf le mari et les très proches parents, nul ne franchissait le seuil du gynécée. Les femmes se donnaient des festins entre elles. Mais le mari traitait-il ses amis? La femme se retirait dans ses appartements. Le seul fait d'assister à un repas où se trouvaient des hommes eût irrémédiablement compromis sa bonne réputation. Pour prouver aux jurés que Néhéra est une courtisane, Démosthène dit « Elle soupait et buvait avec Stéphanos, son mari, et ses amis en vraie courtisane. » Ainsi, les relations mondaines, les dîners et les réunions où se rencontrent les hommes d'esprit et les femmes aimables, et qui sont, à la condition de ne point en abuser, un des agréments de la vie contemporaine, n'existaient point à Athènes. Les Athéniens se dédommageaient avec les courtisanes. À celles-ci, les mœurs n'imposaient aucune gêne. Les hommes ne leur demandaient que d'être belles et gaies, et la loi ne s'inquiétait pas d'elles, puisqu'en qualité d'étrangères, elles étaient pour ainsi dire hors la loi. Pourvu que l'Étahire acquitte l'impôt comme étrangère et l'impôt comme courtisane, pourvu qu'elle n'enfreigne pas les lois de la cité, qu'elle ne contrevienne point aux règlements de police, qu'elle ne fasse pas scandale en entrant dans certains temples ou en se mêlant aux femmes et aux filles des citoyens dans les cérémonies publiques, elle a toute liberté de vivre et d'agir à sa guise. Elle va où bon lui semble, sort quand il lui plaît, s'enrichit comme elle le peut et se ruine si elle le veut. Depuis l'Étahire, possédant maisons, esclaves, joyaux, commanditant banques et fabriques et dominant une cour d'adorateurs, jusqu'à l'humble esclave du troupeau des Dictériades, les courtisanes étaient presque obligatoirement conviées dans les soupers qu'elles égayaient par leurs propos et leurs chansons. Beaucoup d'entre elles avaient le mot plaisant et la répartie vive. Si l'on faisait l'anthologie de l'esprit grec, on prendrait à Glycère et à Callistion autant qu'à Diogène et à Arcésilas, aux courtisanes autant qu'aux philosophes. Mais l'esprit des courtisanes était toujours le même. Avec elle, il arrivait le plus souvent que d'enjouer, la conversation devenait licencieuse. Ces femmes ne manquaient pas seulement de retenue, elles manquaient de discrétion. En pareille compagnie, il eût été dangereux de parler politique et il était impossible de s'entretenir longtemps de sujets sérieux. C'était bien pour les jeunes gens, c'était même bien pour Socrate qui savait s'accommoder de tout. Mais des hommes tels que Périclès, Anaxagore, Damon, Phidias ne pouvaient se plaire longtemps au bavardage des joueuses de flûte. Regardée comme la maîtresse de Périclès par la foule des Athéniens, respectée comme si elle fût sa femme par les amis du grand orateur, Aspasie était dans une condition unique. Elle avait à la fois la liberté de la courtisane et la retenue de l'épouse. Elle pouvait recevoir les familiers de Périclès, ce qui eût été imputé à crime à une Athénienne, et ceux-ci trouvaient en elle une interlocutrice capable de les entendre et de leur répondre, ce qui n'était pas le fait d'une courtisane. C'est ainsi qu'on s'explique le rôle tout particulier d'Aspasie à Athènes, sa renommée chez les philosophes, le grand et tenace amour qu'elle inspira à Périclès. La première, la seule peut-être de toutes les femmes d'Athènes, elle entretint un commerce aimable et élevé avec les hommes supérieurs. Pour Socrate, pour Anaxagore, pour Phidias, elle fut une amie sincère et intelligente. Pour Périclès, elle fut la maîtresse et la femme, le sourire de la vie, le charme du foyer, le sûr confident de chaque jour. Elle eut la parole qui éclaire, l'affection qui console et la grâce qui repose.